Je m'appelle Toumam et je suis né il y a 14 ans dans le laboratoire du professeur Findus. Ce jour-là, tout le monde a fêté ma naissance. Il y avait plein de journalistes. Je ne m'en souviens pas, bien sûr, mais on me l'a raconté, pas plus tard qu'hier, car c'était mon anniversaire. Comme j'ai eu deux fois l'âge de raison, on m'a expliqué que je venais du froid. Au tout début, j'étais une cellule congelée dans la moelle de l'os d'un mammouth préhistorique enfoui dans le permafrost. Incroyable, non ? Ce mammouth, mon ancêtre en quelque sorte, il était exactement comme moi. Ou moi comme lui, si vous préférez. Nous avons le même code génétique, qu'ils m'ont dit. Alors quand j'ai su ça, j'ai mieux compris pas mal de choses. D'abord, j'ai compris pourquoi j'ai toujours eu trop chaud dans le laboratoire du professeur Findus. Et puis, j'ai compris aussi l'origine de mon nom. Toumam, c'est mammouth en verlan. Parce qu'on a dû remonter le temps pour me retrouver. Et surtout, j'ai bien vu à quoi ça sert mes cours de biologie. Lui, l'ancêtre, et moi, on a le même code. Ça m'a drôlement épaté. Alors comme ça, si on me larguait tout seul dans le nord-est de la province de Yakoutie, je devrais pouvoir me débrouiller tout seul. Je saurais trouver mon chemin, me loger, me nourrir, et tout. Balèze. C'est ce que mes potes ont dit du bahut quand je leur ai raconté. Et ça les a bluffés. Même que Fantia, la petite éléphante du premier rang, elle m'a regardé d'un œil admiratif. Et j'ai rougi jusqu'aux oreilles. Et puis le soir, en m'endormant, je me suis mis à rêver des paysages sauvages, des steppes à perte de vue, des pentes enneigées. Ça m'a donné des frissons. Ça m'a même fait froid dans le dos. Et là, je me suis dit, mais avec qui je vais bien pouvoir causer là-bas? Est-ce que je pourrais quand même emporter ma console de jeu, histoire d'occuper mes longues soirées d'hiver? Est-ce qu'il y aura des tigres? Des loups? Et au bout d'un moment, je me suis mis à trembler de tous mes membres. Et j'étais tout à fait réveillé. Finalement, que je me suis dit, les gènes, ça ne fait pas tout dans la vie. Alors j'ai serré bien fort dans mes bras l'iPhone 9 dernier cri qu'on m'avait livré par erreur le matin même au professeur Findus. Je me suis blotti dans mon nid de paille et je me suis enfin abandonné aux bras de Morphée.
Vous écoutez Radio Campus Lille, vous venez d'entendre un petit conte choisi par l'Union Rationaliste Métropole Nord, écrit dans le cadre d'un atelier. Alors Michel, l'Union Rationaliste Métropole Nord, c'est quoi ?
L'Union Rationaliste Métropole Nord, c'est une section locale de l'Union Rationaliste Nationale. Donc l'Union Rationaliste Nationale a été créée en 1930 par des scientifiques comme essentiellement Paul Langevin, qu'on connaît, ensuite aussi Frédéric Joliot-Curie. Et donc nous, on est une petite association, un petit groupe. Ça ne nous empêche pas d'avoir des grandes ambitions quand même. Enfin, l'association est membre de la Fédération des associations laïques de Roubaix, donc on en est un membre actif. Le travail qu'on mène, le travail militant qu'on mène, se fait avec des adultes, des adolescents, des enfants. Donc on travaille dans des écoles, des lycées, des collèges, des comités de quartier, enfin tout public. On bénéficie du soutien actif du Forum des sciences, du Forum départemental des sciences. Et on est par ailleurs aussi membre associé du laboratoire de recherche sciences et sociétés à Lille. Donc voilà, pour donner un aperçu. Donc on est basé sur Roubaix, mais le rayonnement est beaucoup plus large à l'échelle du département, voire de la région dans certains.
Là, donc on a eu un conte d'Éric. Comment s'appelait ce conte ?
Alors, le conte s'appelait Toumam. Donc c'est un conte qui a été écrit, mais on va en reparler un peu après, dans le cadre d'un atelier d'écriture de contes scientifiques tout public. Donc c'est un des contes qui fait partie du recueil.
Et votre objectif, l'Union Rationaliste Métropole Nord ?
Alors, notre objectif, c'est essentiellement travailler à l'analyse critique. Alors, bon, l'analyse critique, en fait, c'est quoi l'analyse critique ? C'est une ligne qui emprunte pas mal d'outils à la démarche scientifique. Ça ne veut pas dire forcément qu'on travaille sur des domaines scientifiques, mais on va essayer d'expliquer un petit peu en quoi ça emprunte à la démarche scientifique, et ce que c'est que cette analyse critique. Dans un contexte difficile actuellement, je crois que c'est pas la peine d'expliciter, on le sait, on essaye de chercher à comprendre, à analyser, à se débarrasser d'idées préconçues, d'idées fausses, mais dont il est parfois difficile de se dégager parce que... Bah, a priori, toutes les idées préconçues sont des idées confortables parce qu'elles correspondent à des habitudes. Alors, je vais donner un petit exemple. Par exemple, au XVIe siècle, quand Galilée a remis en cause l'idée que la Terre était le centre du monde et que les autres astres tournaient autour d'elle, pour avancer une théorie qui disait que la Terre n'était pas l'élément central, mais qu'elle était un astre comme les autres, c'était une révolution intellectuelle. Difficile à penser parce qu'elle oblige à se débarrasser des habitudes de pensée, mais c'était pas seulement difficile pour convaincre la population, mais aussi lui pour se débarrasser de cette pensée traditionnelle. Même chose pour Kepler, hein, qui a, sur l'idée des trajectoires, qui a découvert, alors on dit découvert, mais qui a fait aussi la révolution intellectuelle de penser que les trajectoires des astres n'étaient pas des cercles, mais étaient des ellipses. Donc, en général, les chercheurs qui découvrent des théories nouvelles sont obligés de passer par des révolutions intellectuelles, hein, pour sortir du confortable des habitudes. Mais même quand on n'est pas soi-même dans une situation de découverte d'une nouvelle théorie, on est toujours amené à comprendre en se débarrassant des idées préconçues. Et donc, de remettre en cause, de questionner, enfin bon. Donc, c'est un petit peu la logique, la trame du travail qu'on essaye de faire.
Donc se débarrasser des idées préconçues, sachant que d'après mes souvenirs, à l'époque de Galilée, je pense qu'il y a une classe sociale qui partageait ces idées. Même quand on visite le musée du Vatican, on s'aperçoit que en regardant certaines œuvres d'art, ces idées, elles préexistaient déjà. Le problème, c'est de les rendre publiques ou de les diffuser au plus grand nombre, non ?
Alors, je crois que l'idée, c'est que autant pour les chercheurs que pour la société, tout public, il y a un moment où il faut faire un peu un basculement, c'est-à-dire remettre en cause tout ce qu'on pouvait avoir en tête, ce qu'on pouvait penser. Donc ça peut être pour des chercheurs à un certain moment, pour la population à un autre moment, pour les chercheurs, ben, l'idée évolue, et il y a un moment où on se dit, bon, là, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, il faut changer de système.
On appelle ça vulgariser. À ce moment-là, ça se propage, ça se vulgarise, non ?
Oui, mais pour le chercheur, c'est vraiment, je pense, un changement assez radical d'imaginer, ben non, la Terre n'est pas le centre du monde, la Terre tourne, et la Terre tourne autour d'autres astres, il faut l'imaginer, y compris pour le chercheur. Enfin, je pense que c'est là qu'est le problème clé de cette remise en cause et du questionnement. Si on veut changer de sujet, parce qu'on n'est pas que dans les domaines scientifiques, je pense que bon, c'est quoi l'analyse critique ? Bon, quand une idée est avancée par des médias, par des études politiques, par la publicité, par beaucoup de choses, enfin toute une série de courants de pensée qui sont diffusés dans la société, on ne peut pas se permettre, enfin bon, c'est là qu'est la question, de les admettre en bloc, et puis l'idée c'est donc de se dégager de tout ce qui est présenté comme une vérité, vérité qu'on a admis sans remise en cause, sans discussion, présentée comme immuable. Et beaucoup de choses nous sont assénées de cette façon-là. Donc l'idée c'est pas de critiquer ce qui nous conviendrait pas, mais plutôt de fouiller, analyser pour comprendre. C'est-à-dire que c'est dans ce sens-là que les éléments clés que nous empruntons aux sciences apparaissent, à savoir remettre en cause en permanence les résultats, ne jamais se satisfaire d'une conclusion comme définitive. Ces conclusions peuvent être rediscutées par la communauté scientifique, et la théorie reste momentanément vraie tant que personne ne l'a réfutée. Et donc ça, c'est un des grands principes scientifiques. Et sur ce principe-là, nous, il faut qu'on apprenne aussi à travailler de cette façon-là. C'est-à-dire sortir des croyances, sortir des vérités, entre guillemets, c'est-à-dire de ce qu'on croit, c'est-à-dire ce qu'on admet sans discussion, sans remise en cause possible.
C'est le problème de la référence de l'autorité. Les personnes qui croient systématiquement ce qu'on leur dit avec une certaine force. J'ai une citation de Fontenelle qui a vécu il y a très longtemps, mais qui a certainement inspiré les publicitaires, puisqu'il disait « Donnez-moi une demi-douzaine de personnes à qui je puisse persuader que ce n'est pas le soleil qui donne la lumière, et je ne désespérerai point que les nations entières n'embrassent cette opinion. » Donc ça, c'est cette force de conviction contre laquelle nous, on essaie de lutter en disant que ce n'est pas parce que quelque chose est dit que c'est la vérité absolue, qu'on a des moyens de vérifier, de contrôler. C'est un petit peu le risque qu'on rencontre avec Internet aussi, les gens qui transmettent des informations qu'ils ont vues sans chercher les sources, sans les analyser, sans savoir, en pensant que comme c'est écrit, comme c'est dit, comme c'est répété, c'est la vérité.
C'est ce qu'il y avait dans les journaux, c'est les discours d'un tas de gens, il n'y a pas que les politiques
tout à fait.
Publicitaires n'utilisent que ça. Hein.
Tout à fait.
La remise en cause des idées, c'est...
Exactement.
Et voilà, ils font ça scientifiquement.
Qu'on soit convaincus de ce dont il faut qu'on soit convaincus.
Et toute l'idée, c'est de savoir, parce que quand on présente ça, on nous dit, bah oui, mais bon, vous êtes un peu maso, quoi. Enfin, c'est contraignant, ce genre de choses, c'est pas... Et en fait, on se rend compte que quand on est entré dans cette logique-là, ça devient une sorte de jeu intellectuel, une curiosité, sortir de croyances dans des domaines variés, pas seulement dans les domaines scientifiques, pour les mettre en lumière. Et ça n'empêche en rien la fantaisie. Et ça, on va le voir un peu après. Donc sur la deuxième partie, on va retravailler un petit peu sur l'idée des ateliers qu'on mène. Mais je pense qu'il y a toute une partie fantaisie, ludique. Ce jeu intellectuel est quand même un jeu rigoureux, mais pas du tout contraignant, pas désagréable du tout. Alors, comment on s'y prend concrètement ? Bon, on essaye de mener des ateliers divers, et au travers de ces ateliers très variés, on essaie de travailler à la construction d'outils d'analyse qui sont intéressants pour démonter des pièges. Alors, je vais commencer par un exemple. Bon, un petit exemple qui peut être utilisé au cours d'ateliers. Une citation. Fêter son anniversaire est bon pour la santé. La preuve, plus on en fête, plus on vit vieux. Bon. On se rend bien compte que manifestement, il y a une anomalie dans le raisonnement. Tout le monde repère l'anomalie, mais maintenant, comment on va faire pour traduire ce problème ? Où sont les pièges ? Et surtout, l'idée, c'est de relier ces outils-là, qui sont utilisés là de façon ludique, mais comment les relier à des pièges qu'on nous tend sans que nous nous en rendions compte ? Alors, là, si on travaille un peu sur l'outil de décodage de ce problème-là, c'est de se dire, bon, il y a une corrélation entre santé et vivre vieux. Bon. Il y a une corrélation entre vivre vieux et le nombre d'anniversaires fêtés. Bon. Mais subrepticement, au lieu de mettre les variables en simple corrélation, on attribue à l'une d'elles le rôle de cause. La cause du fait de vivre en bonne santé est fêter son anniversaire. Bon, là, sur cette partie-là, c'est un jeu. Mais c'est très couramment utilisé dans des informations que nous recevons. Bon, par exemple, j'ai vu récemment une étude anglaise qui affirmait que le taux de maladie est plus grand chez des habitants qui habitent sous des pylônes électriques. En général, on est très friand de ces études-là qui nous disent « attention, danger », et sans qu'on sache réellement d'où viennent les dangers réels.
Puis 20 000 volts, ça doit faire quelque chose.
Oui, si on les touche, mais bon.
Ah, oui, non, mais...
Alors, le problème... c'est qu'il y a une variable cachée, là aussi, qui n'est pas prise en compte. C'est que, là, ils se sont rendus compte que les habitants qui vivaient sous les pylônes appartiennent essentiellement aux populations les plus pauvres, chez qui le taux de maladie est plus grand, que ce soit sous les pylônes ou ailleurs. Et ça, c'est assez courant dans les études qu'on peut nous donner, c'est-à-dire que, on pourra retrouver un certain nombre d'exemples, mais c'est-à-dire qu'en fait, il y a des variables qui sont cachées, et si on ne les prend pas en compte, on en arrive à des résultats qui sont des résultats faux, parce que manifestement, il n'y a pas de raison particulière que des habitants qui habitent dans les environs des pylônes électriques soient forcément plus malades que d'autres.
Donc la nécessité pour éviter ces pièges qui nous sont tendus devient un peu évidente. Alors pièges tendus volontairement ou non. Hein. Et donc au cours de nos ateliers, on cherche à associer des jeux, des réflexions, et autour de pièges, en utilisant donc des pièges ostensibles ou ostentatoires, comme on veut, comme celui de fêter son anniversaire, là, pour démonter des argumentations fausses ou piégées. Donc on essaie à chaque fois de faire un peu le lien entre des jeux comme ça qui permettent de mettre en évidence les outils, mais de les utiliser après dans une analyse critique d'informations qu'on peut avoir.
C'est ce qu'on a fait par exemple avec l'atelier qu'on a fait avec les Franca sur une des études de texte. On a étudié avec eux un texte du ministère de l'Éducation nationale sur le dépistage du risque de délinquance chez les petits-enfants. C'était un texte tout à fait officiel, réglementaire et estampillé bleu, blanc, rouge, et qui comportait des contre-vérités ou des invraisemblances que les jeunes ont bien mis en évidence aussi. On a travaillé avec eux aussi sur des publicités pour qu'ils voient le langage, particulièrement en matière de produits de beauté et de santé, publicité pour les santé, sur l'homéopathie par exemple, et publicité pour les automobiles. Et à cette occasion, on a vu aussi je parle tout le temps d'autorité, mais l'autorité scientifique qui se cache derrière les chiffres. À partir du moment où on met des graphiques, des moyennes, des chiffres, des pourcentages, on est dans le domaine scientifique. S'il y a des chiffres, c'est scientifique. Si c'est scientifique, c'est vrai. Bon, on connaît tous la moyenne, notre température de 37 degrés qu'on peut obtenir très bien en ayant les pieds dans la glace et la tête dans un four à 74 degrés, par exemple. La température moyenne, elle doit être de 37 degrés environ. Je ne suis pas certaine que ce soit une moyenne réalisable.
Vous avez parlé des Francas.
Oui, les Francs et Franches Camarades de Lille. Ah ben. Pardon.
Et c'était des enfants.
C'était des animateurs.
Moi, je vais donner deux, trois autres exemples parce que
oui,
ça
voilà,
vaut quand même la peine.
Quelques autres exemples de vous. Oui.
Bon, un exemple tout simple aussi sur le mélange entre cause et conséquence. Ça, c'est une chose que j'ai entendue une fois dans une ville où, paraît-il, il y avait beaucoup d'insécurité. Bon, quelqu'un me dit, oh là là, tu te rends compte, dans ma ville, tu te rends compte de l'état de la situation et de la délinquance là-bas. La preuve, c'est que j'en suis arrivé à mettre deux antivols à ma voiture. Alors bon, je lui ai dit que, en fait, ça traduisait peut-être le fait qu'il avait deux fois plus peur, mais pas qu'il y avait deux fois plus de violence. Mais ça, c'est extrêmement courant quand on entend dans les discussions ce genre de choses. Donc, d'y mettre une conséquence. Donc, la conséquence traduit la peur, mais ne traduit pas du tout un effet plus important, enfin, comme l'insécurité. Alors, bon, j'en ai d'autres aussi, des petites... Bon, par exemple, quand on nous annonce... Le nombre de prisonniers a doublé en 20 ans. Bon, c'était un débat sur plateau télévisé. Donc, bon, bien sûr, le débat prend de l'ampleur avec l'idée d'insécurité, de délinquance, donc de répression nécessaire. Et donc, ça enflait, jusqu'au moment où il y avait aussi parmi les personnes qui étaient là, une juge pour enfants qui dit, mais attention, qu'est-ce qui peut faire augmenter le nombre de prisonniers ? Ça peut être l'entrée des prisonniers, une entrée plus nombreuse des prisonniers dans les prisons, mais ça peut être aussi l'augmentation des durées moyennes des peines. Or, quand on est en situation ou en période de sécurité affichée, sécurité maximale, la tendance est d'augmenter la durée des peines. Or, si on n'a pas plus de délinquants, si on n'a pas plus d'entrées dans les prisons, mais si à côté de ça on double les durées des peines de prison, bah effectivement, de fait, on va doubler le nombre de prisonniers dans les prisons. Donc ça a des conséquences qui peuvent être même beaucoup plus importantes. Bon, c'est qu'aux États-Unis, par exemple, il y a beaucoup de prisonniers noirs dans les prisons. Bon, la question à se poser, c'est est-ce qu'il y a plus de délinquance dans la population noire ou est-ce qu'il y a plus de racisme chez les juges ? C'est une question, simple question, mais ça fait partie des analyses qui sont à poser en permanence.
Et combien y a-t-il d'entreprises à côté de la prison américaine ? Parce que les prisonniers travaillent, pas cher. On pourrait aussi poser la question. d'après mes souvenirs, c'est 2,5% de la population américaine qui est en prison.
En plus.
On n'appelle pas ça des camps de travail. Ils tout travaillent, ces gens-là. Il faut bien qu'ils s'occupent.
Et enfin, donc, tous ça, ces éléments-là sont à mettre sur le tapis. Donc, quand on fait une analyse, je crois que tous ces éléments-là, il ne faut pas qu'on les oublie. Enfin, il faut... Ça fait partie de l'analyse qu'on a à prendre en compte en permanence.
Une petite chanson pour illustrer le propos. Voilà, une chanson de Dominique Sylvain, « Levez le menton ».
C'est parce qu'on a regardé au-dessus, depuis tout petit que l'on a pu petit à petit devenir un tout petit peu plus grand et faire confiance au temps. La ligne du dessus est infinie, il n'y a qu'à lever le menton. Qu'est-ce qu'on attend pour retrouver comme des enfants la joie de risquer d'être gagnant ou perdant? On se demande pourtant de temps en temps si l'on préfère rater sa vie plutôt que de risquer d'être grand. Si l'on préfère rater sa vie en maudissant ceux qui sont grands, en imaginant l'ennemi ailleurs que dans nos peurs d'être grand. Si l'on choisit de rater sa vie de peur de lever le menton, il y aura toujours quelque chose au-dessus. Même quand on se croit à l'abandon, petit dans la toujours quelque chose au-dessus. Même quand on croit qu'on est le plus grand, petit dans l'infiniment grand, il n'y a qu'à lever le menton. L'acte de vie le plus petit, lorsqu'on redresse le menton petit à petit, peut-être le chaînon manquant, une ouverture universelle. L'acte de vie est infini, chaque goutte met dans l'océan en son grain de sel. Il n'y a rien qui soit éternel, l'acte qui nous rend vivants. On se demande pourtant de temps en temps si l'on préfère rater sa vie plutôt que d'essayer d'être grand. Si l'on préfère rater sa vie pour faire comme papa et maman, en oubliant que la vie tend la main à celui qui la prend. Si l'on choisit de rater sa vie de peur d'agir dans le présent, il y aura toujours quelque chose au-dessus. Même quand on se croit à l'abandon, petit dans l'infiniment grand, il n'y a qu'à lever le menton. Il y aura toujours quelque chose au-dessus. Même quand on croit qu'on est le plus grand, petit dans l'infiniment grand, il n'y a qu'à lever le menton.
Choisit de rater sa vie par peur de lever le menton, il y aura toujours quelque chose au-dessus. Même quand on se croit à l'abandon, petit dans l'infiniment grand, il n'y a qu'à lever le menton. Ces paroles de Dominique Sylvain, la chanteuse haïtienne, sont une bonne représentation de notre logique militante. Il faut apprendre aux gens à lever le menton et à ne pas regarder, à ne pas baisser la tête, ni les bras.
Lever la tête, ne pas baisser les bras, ça veut dire que vous êtes militant, militante laïque.
Bon, c'est vrai que la laïcité, c'est aussi parmi l'ensemble de nos actions un point essentiel, surtout actuellement, parce que on se rend compte que dans des périodes difficiles, économiques et politiques, hein, périodes où les difficultés économiques et politiques sont dégradées, je vais dire que comme ça, la laïcité, en général, en prend un coup, c'est-à-dire que c'est un enjeu de société qui est un enjeu extrêmement important. Et donc, parmi les axes essentiels de notre militantisme, la promotion et la défense de la laïcité sont un noyau de travail pour nous. Alors, promotion et défense, promotion parce que je crois que Il faut vraiment travailler à développer ou redévelopper les éléments de connaissance de la laïcité. Parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui, en toute bonne foi, ne connaissent pas ne savent pas ce qu'est la laïcité. Et puis, par ailleurs, il y a aussi une défense contre des régressions soutenues par nos gouvernements successifs, par leurs médias, par des groupes politiques qui ont intérêt à détruire la laïcité. Alors, notre position au sein de l'Union rationaliste, je crois qu'on peut lui définir deux axes. Un axe donc qui défend la laïcité comme contrat politique de cohésion de la société, qui donc fixe des règles pour que les personnes en tant qu'individus soient respectées dans leurs convictions, et que parallèlement et dans le même but, lutter contre le morcellement de la société en groupe de pression est un axe principal aussi, parce que ces groupes de pression n'ont qu'un souci, c'est empêcher la liberté de conviction des autres membres, des membres des autres groupes. Alors, on peut constater des positions de récupération malsaine de la laïcité sur des bases de racisme envers des groupes religieux qui sont en dehors du champ exclusivement chrétien. Pas la peine de faire de citation. Mais parallèlement, on se rend compte aussi qu'il y a des groupes politiques qui, parce qu'ils veulent s'opposer justement à ce racisme ambiant des groupes précédents, ont tendance à favoriser les groupes qui ont été, eux, discriminés. Or, c'est malsain parce que finalement, on se rend compte que la laïcité, c'est une valeur d'universalité, universalité des règles, et dès qu'on cible sur un groupe, dans un sens ou dans l'autre, soit pour le discriminer, soit pour avoir tendance à le caresser dans le sens du poil ou le favoriser, c'est dangereux de la même façon. Et dans ce cadre-là, dès qu'on cible sur un groupe, on sort du cadre de la laïcité. Donc ça, c'est un des aspects, un des deux aspects. Par ailleurs, on a aussi un deuxième point, qui là est peut-être un axe plus spécifiquement rationaliste, associé à notre travail militant. C'est la laïcité aussi en tant qu'éthique de vie. C'est-à-dire que l'idée, c'est de distinguer ce qui est de l'ordre des convictions, opinions, croyances, etc., par rapport à la recherche de connaissances qui, elles, sont indépendantes des convictions et des opinions. C'est-à-dire que, pour revenir à ce qu'on avait dit tout à l'heure, dans le domaine des sciences, les croyances ne peuvent pas être engluées des opinions des chercheurs, de leurs croyances. Il y a des règles qui permettent à la collectivité internationale, mondiale, de remettre en cause des résultats dès qu'on se rend compte qu'il y a une anomalie, ou dès qu'on a trouvé, on a pu faire d'autres recherches qui remettaient en cause les résultats. Cette éthique est empruntée au domaine des sciences, et ça fait partie de notre travail militant. Mais même dans le cadre de la société, je pense que c'est important d'être capable à tout moment de faire la part des choses. Ça ne veut pas dire qu'on ne gardera pas des croyances, des opinions, mais il faut savoir aussi que les connaissances, elles ne peuvent pas être engluées dans ces opinions. Et par exemple, à l'école, les enfants ont absolument besoin de pouvoir acquérir des connaissances indépendamment des opinions ou des croyances de leur famille, des familles d'autres. Donc il y a ce travail d'éthique qui est extrêmement important par rapport à cet autre aspect de la laïcité. Je pense qu'on peut préciser, là je vais revenir là-dessus, qu'une connaissance n'est validée que quand elle est reconnue par l'ensemble des chercheurs, quelles que soient leurs options philosophiques, mais aussi d'ailleurs par toute personne susceptible de la remettre en cause, de l'améliorer ou de la modifier. Quelle que soit la personne, n'a pas besoin d'être un chercheur de haut niveau. Il est arrivé que des personnes sur l'observation d'insectes remettent en cause une théorie qui avait été avancée, simplement parce qu'ils avaient fait des observations qui bousculaient cette théorie. Mais du moment que la personne le démontre dans un cadre rigoureux et acceptable par tout le monde, par l'ensemble de la population, si on veut dire, de façon générale. Alors qu'à côté de ça, une croyance n'est liée... Enfin, une croyance est liée à une autorité. Elle n'est jamais remise en cause. Elle ne peut pas être remise en cause. Une croyance, c'est comme ça. Et une opinion, c'est plutôt du cadre individuel. Je vais prendre d'ailleurs le temps de citer une conférence qui a été faite par Guillaume Lecointre à l'occasion du colloque de l'Union rationaliste à Paris l'année dernière, le colloque 2013, et cette conférence est sur le site de l'Union rationaliste. Donc il suffit par un moteur de recherche d'aller taper Union rationaliste et on trouve le site. Et cette conférence y est, et elle est sur le site, donc la vidéo, hein, vous avez la vidéo, et ça s'appelle « Comment apprendre aux élèves à distinguer savoir, croyance et opinion ?» et les créationnismes. Et nous, on va donc lancer des ateliers autour de cette idée, c'est-à-dire qu'on va reprendre la conférence, projeter la vidéo donc, de la conférence de Guillaume Lecointre, et d'engager des débats autour de cette idée, savoir scientifique, croyance, opinion, laïcité des savoirs scientifiques, etc. Donc voilà, tout ça pour dire que pour nous, la laïcité, c'est à double titre un élément fondamental de notre militantisme. Je vais d'ailleurs quand même redire aussi que c'est pas nouveau à l'Union rationaliste, et en fouillant un peu dans les papiers de l'Union rationaliste nationale, j'ai eu l'occasion de retrouver un article de journal qui avait été écrit en 1980, donc c'était La Voix du Nord du 20 octobre 1980, par le groupe, la section locale de Lille de l'Union rationaliste, dont Madame Sénave était la présidente. Alors je vais vous le lire parce que ça montre quand même que en 30 ans, les choses, plus de 30 ans, les choses n'ont pas énormément évolué sur les objectifs qu'on pouvait avoir. Donc je vous lis. L'Union rationaliste redéfinit l'esprit laïque. L'Union rationaliste, qui a tenu dernièrement son congrès national, congrès qui marquait également le cinquantenaire de l'Union, a manifesté l'intention de préciser cet esprit laïque auquel les rationalistes sont attachés et de prendre, s'il en était besoin, sa défense. Les rationalistes sont lassés de voir que le mot laïcité est tourné en dérision, totalement oublié par d'autres, soulignent les responsables de l'Union. La vraie laïcité n'est ni une neutralité dévitalisée, ni le refus du dialogue, ni l'arme de quelque obscur combat d'une chapelle contre une autre chapelle. C'est la recherche de tout ce qui permettra à l'individu d'exercer un esprit critique fondé sur la connaissance et de promouvoir l'aptitude de l'homme. L'Union rationaliste a également souhaité un plus grand respect de la science, non d'une science qui serait, comme on la caricature de façon injuste et ingrate, prétentieuse et orgueilleuse, mais de celle qui se soumet aux contrôles expérimentaux et renouvelables. Attentif à cette montée de l'obscurantisme ouvrant la porte à l'intolérance et à la violence, les rationalistes ont affirmé la conviction que le rationalisme scientifique doit être mis au service de l'homme et être utilisé pour sa libération. Donc ça date du 20 octobre 1980.
Aussi. On parle jamais trop des créationnistes de la dette. Je trouve que l'expression est bonne.
Les créationnistes de
la dette ou des fausses dettes. Hein. On nous en parle beaucoup dans les médias. Alors, une petite chanson.
Oui.
Hein, une petite chanson, donc un texte de Bernard Lafargue. Une musique de Yannick Minnoel. La laïcité.
C'est une révolution, tout le monde rentre en transe dès qu'on parle religion. Nous avons dans notre histoire des périodes très obscures, des signes ostentatoires de barbarie, d'inculture. Chaque fois qu'un dieu descend, quelle que soit sa confession, ça finit en bain de sang, tout le monde ayant raison. Mais il existe un moyen de couper court à la haine en chantant soir et matin cette jolie tyrolienne. La laïcité, c'est un droit sacré. La laïcité, c'est la liberté. Le réel, les âmes sont à la peine, besoin de spirituel, personne n'a le monopole. physiques. Ne laissons pas ce pactole ôter aux ecclésiastiques qui, sous couvert de tolérance, voudraient bien nous imposer leurs règles d'intolérance que l'histoire a rejetées. Camarades libres penseurs, athées sans foi agnostiques, nous allons chanter sans cœur cette chanson démocratique. La la i, la i, la la i. Cité, c'est un droit, c'est un droit, c'est un droit sacré. La la i, la la i, la la i. Cité, c'est la li, c'est la li, c'est la liberté. La la i, 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 la la i. S'exprimer, afficher ses convictions dans le pays de Molière, de Voltaire et de Rousseau. Le beau siècle des Lumières voit mourir ses idéaux. Il devient blasphématoire d'aborder certains sujets sans risquer le réquisitoire des gardiens de la pensée. C'est pourquoi je vous propose, avant mon exécution, de faire une petite pause et de chanter cette chanson.
Vous écoutez Radio Campus Lille, vous faites une recherche. Moteur de recherche favori, Yannick, la laïcité, Bernard Lafargue, vous tomberez sur la chanson. Alors, là c'était la chanson, prendre vos idées pour essayer de remettre les choses en place. Vous utilisez quels moyens ?
Parler de nos actions concrètes.
Vos actions concrètes, oui, voilà.
Alors nous avons, Hélène Langevin-Joliot est venue à Roubaix en 2009 et elle avait sous-titré sa conférence « La culture scientifique n'est pas que savoir, elle est formation à l'esprit critique et au raisonnement, condition d'un débat démocratique constructif. » C'est ce qui nous a inspiré pour ce que nous faisons en direction des scolaires, généralement.
Donc nous avons eu l'idée de créer dans Roubaix et ses environs des ateliers pour former à l'esprit critique et au raisonnement, en suscitant la curiosité scientifique et en respectant la démarche scientifique aussi bien chez les enfants que chez les adultes.
C'est ce qui a amené à faire découvrir des spectacles scientifiques. Quel en est l'intérêt ?
Dans le cadre de la fête de la science 2011, nous avons organisé avec des jeunes, donc de 10 à 18 ans, des ateliers sur le thème chimie, cuisine et texture. Nous avons réuni tous les groupes participant à ces ateliers autour d'un spectacle réalisé par la Compagnie des Ondes, « Les clowns parlent du nez ». Pourquoi des clowns ? Pourquoi le nez ? La rencontre avec Anne Rouget et sa compagnie nous a permis de découvrir une histoire policière, en même temps que la neurobiologie de l'olfaction. Oh oh, que des grands mots scientifiques ! Dans ce conte, deux policiers nous apprennent que les odeurs que nous percevons sont la combinaison entre les molécules odorantes et nos récepteurs olfactifs qui produisent littéralement une image dans notre cerveau. Notre cerveau sent. Notre cerveau fait quoi, au fait ? Notre cerveau identifie les odeurs déjà stockées dans sa mémoire. Il identifie donc l'image qu'ont produite les molécules odorantes et avec nos récepteurs olfactifs. Comme le dit l'inspecteur Ménardeau dans le spectacle, le nez n'analyse pas les odeurs, il les voit. Oh, qui peut faire croire ça à des enfants ? Le recours au personnage du clown induit un nouveau regard sur la science. De cette association entre art et science émerge un lien plus libre, plus naïf, plus impertinent. Les enfants osent lui parler, osent lui faire des remarques, osent l'importuner. Le clown de science, en jouissant de la sympathie naturelle de la part du public, devient une figure incontournable de la communication des sciences. Il se crée une science à travers ses contenus, à travers son fonctionnement, ses applications, les interrogations éthiques et sociétales qu'elle suscite. la science à travers des questions de société, des questions de raisonnement, des questions éthiques. Qu'est-ce que ça représente, quoi, pour tous les enfants? Anne Rouget possède une carrière scientifique dans la recherche en imagerie médicale lorsqu'elle s'engage sur la voie de la médiation scientifique par le spectacle vivant. Sa spécificité repose sur les liens étroits qu'elle entretient avec le milieu scientifique et sur sa capacité à croiser les univers de la science et de l'art dramatique. Elle fascine les enfants, les clowns aussi. Ses spectacles, les rayons X, les femmes de génie sont-elles rares, nous incitent aussi à nous interroger sur les stéréotypes qui perdurent encore au XXIe siècle. Par exemple, est-ce qu'on peut être une femme et être en même temps une scientifique? On avait déjà eu même avec le même débat avec Hélène Langevin en 2009, lorsque elle avait fait une conférence avec des élèves de lycée de Roubaix et de Tourcoing. Et elle avait expliqué comment elle avait pu être en même temps femme et scientifique connue.
Bien évidemment, on peut être femme et scientifique. Il suffit de regarder les publicités pour le dentifrice. Il y a toujours des dames avec des blouses blanches et des lunettes qui font des graphiques et qui expliquent qu'on peut être femme et scientifique.
Il suffit de mettre une blouse blanche et voilà, là on est scientifique.
On est scientifique. Les contes et le théâtre scientifique. Quels sont les rapports entre un conte, le théâtre scientifique et les contes scientifiques? Une réflexion sur le rôle et la place des contes scientifiques. Comment à la fois développer l'attrait pour les sciences et en même temps les compétences d'imagination et d'analyse propres aux deux domaines de la science et l'écriture. Les sciences, c'est déjà bien compliqué. Écriture pour des enfants, encore plus compliqué. Alors là, la science et l'écriture, quel problème à résoudre. Notre idée était de ne pas se contenter d'inviter les gens à assister à un spectacle scientifique. Comment pouvions-nous aussi sensibiliser les enseignants et les animateurs à l'écriture de contes avec les jeunes, avec un seul critère de respecter la démarche scientifique? Lors de la Fête de la Science 2012, nous avons lancé un concours d'écriture de contes avec les thèmes « Les énergies, art et sciences » réservés à des groupes de jeunes et d'adultes. Établissements scolaires, bonnes jeunesse, centres sociaux… Et nous les avons conviés à rencontrer la Compagnie des Atomes Crochus et la conteuse Béatrice Collet dans le cadre de la Fête de la Science 2012. Plus de clowns cette année donc. Les élèves pouvaient peut-être être déçus, mais ils ont eu la magie des contes. Le conte Histoire de Fou nous a permis de rencontrer un roi très savant qui gouvernait un empire gigantesque et dont l'occupation favorite était d'organiser des concours scientifiques. Organiser des concours scientifiques pour un roi, quelle folie! Un deuxième conte, Les Trois Montres, nous a montré une petite fille, Julie, qui rêvait d'Afrique. Mais une fois là-bas, les choses sont bien loin d'être aussi belles qu'elle les avait imaginées. Elle comprend à quel point les problèmes sont complexes, car souvent interindépendants. Elle apprend, et nous avec elle, que la clé se trouve en nous, consommateurs, que seuls les consommateurs possèdent le pouvoir de changer le monde s'ils en ont la volonté. Donc toute une réflexion sur la consommation, toute une réflexion sur la partie scientifique des contes, sur comment on écrit un conte scientifique.
Un petit conte ? Allez.
Un conte de l'Union rationaliste Métropole Nord. La princesse, le poilu et le glabre. Il était une fois, au Burkina Faso, une princesse de la tribu Mossi, tellement belle que chaque homme voulait l'épouser. Mais elle restait indifférente à toutes les avances. Un jour, elle rencontra un jeune prince de la tribu d'Agara et en tomba secrètement amoureuse. Ce jeune homme avait la particularité d'être affublé d'une pilosité très développée qui non seulement le complexait, mais le maintenait en santé précaire à cause de la surchauffe thermique qu'elle occasionnait. Il n'osait donc aborder la princesse qui avait cependant pris conscience de ses sentiments à son égard. Lasse d'attendre, elle décida d'entreprendre un voyage dans des contrées plus froides, où une soucoupe volante venue de Mars atterrit. En descendit un petit homme tout glabre. La princesse en tomba immédiatement amoureuse. Malheureusement, Bien vite, du fait de sa non-pilosité, l'homme se mit à grelotter et faillit mourir de froid. Ne voulant pas choisir entre ses deux amours, la princesse souhaitait sauver l'un et l'autre. Elle alla consulter un grand scientifique qui lui expliqua le rôle des poils servants, soit à mieux évacuer la chaleur s'ils étaient peu fournis, soit au contraire à la garder s'ils étaient plus abondants. Si elle voulait garder sa paire d'amoureux, la princesse Polyandre ne voyait qu'une seule solution. Épiler en partie son doux amour poilu et réimplanter les poils ainsi récupérés sur son autre amour glabre. Une idée lui vint. Elle emmena ses chers compagnons en France pour rencontrer le docteur Sérôme Jacuzac, spécialiste des problèmes capillaires et autres poils de tout poil. Il procéda avec succès à l'opération délicate. Et la princesse en retourna dans son pays avec, un à chaque bras, ses deux adorateurs en bonne santé. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, heureusement d'un nombre pair, sur lesquels il fallut procéder, toujours avec succès, à cette opération. Plus tard, cependant, naquit un 13e enfant. Bel enfant au duvet léger. Le hasard avait bien fait les choses cette fois. Ce 13e petit n'eut pas besoin de la médecine pour survivre. Son adaptation lui permit d'avoir à son tour une vingtaine de beaux enfants, dont la plupart, au duvet léger rossi, purent s'accommoder des dures conditions climatiques.
Ce conte permet d'éclairer de manière humoristique un problème scientifique. À quoi servent les poils humains ? Mais surtout, il fait appel à la théorie de l'évolution. Le lecteur est poussé à se demander pourquoi le petit 13e est lui né comme il faut, ni trop poilu, ni trop glabre, ni pourquoi elle s'adapte si bien au climat et va mieux résister que tous les autres.
Ce conte a été écrit dans le cadre de l'atelier adulte. En ce qui concerne la fête de la science, comment s'organisent les différents groupes d'élèves, lycéens, collégiens ou élèves des écoles primaires ?
Pendant plusieurs mois, d'octobre à mars, les différents groupes travaillent sur l'écriture d'un conte, en se documentant sur des aspects scientifiques, en respectant la démarche rationnelle et la structure générale d'un conte. Je citerai deux exemples de réalisation qui montrent bien la complémentarité entre art et science. Un exemple entre classe primaire. Le conte Un drôle de voyage, avec mise en scène et réalisation d'Adida Page par la classe de CM2 de l'école Camus de Roubaix et Marion Vigneault. J'indique le petit résumé du conte. Dounia est malade. Ses élèves de classe, ses amis de classe se transforment en personnages minuscules qui explorent le corps humain et sont confrontés à la déglutition, au bain du suc gastrique, aux substances contenues dans le foie, le pancréas et l'intestin, aux différents microbes et à l'expulsion finale. Ce conte écrit par et avec les élèves leur permet de mieux comprendre le phénomène de digestion. Les élèves vivent le trajet et tous les obstacles rencontrés. En employant le langage scientifique adéquat et bien sûr en visualisant les phénomènes observés. Un autre exemple au lycée cette fois, le conte Soldado, créé pour les enfants par la classe de première bac pro, aide à la personne du lycée Lavoisier de Roubaix avec Madame d'Alexandria et Madame de Courcelles. Un tout petit résumé, la rencontre avec la planète eau polluée et les gâcheurs d'eau nous incite à faire preuve d'analyse et d'imagination pour ne pas gaspiller l'eau et créer une machine pour dépolluer l'eau. Un conte qui nous montre comment ces adolescents du lycée Lavoisier ont abordé de manière ludique les thèmes de l'eau et de la pollution, qui sans ce support auraient sans doute été traités de façon beaucoup plus académique. Ces contes, ainsi que ceux des autres participants de la Fête de la Science, sont lisibles sur notre site dans la rubrique « Fête de la Science 2012 », réalisation des participants.
Peut-on encore s'inscrire maintenant à un atelier d'écriture de contes scientifiques ? Et avez-vous lancé un nouveau concours scientifique avec des contes pour la fête de la science 2013 ?
Pour la fête de la science 2013, nous avons lancé un concours portant sur les deux thèmes science et publicité, l'infiniment petit et l'infiniment grand. Il y aura peut-être des contes mis en scène parmi les représentations effectuées par les enfants et les adolescents, mais nous avons laissé toute latitude à la créativité et à l'imagination par rapport aux productions. Seule la démarche scientifique doit être respectée. Un atelier débat pour les adolescents et une conférence sur la publicité ont sensibilisé les participants sur ce thème avant le travail de réalisation et de production. lors du forum scientifique le 21 mars. Nous organisons des ateliers d'écriture de contes avec des adultes. Prenez contact avec nous si vous êtes intéressé. Vous pouvez aussi nous contacter pour obtenir un recueil de contes qui a déjà été réalisé dans le cadre de ces ateliers. Nos coordonnées, mail, bureau@urmn.lautre.net, le site www.urmn.lautre.net.
Petit pêcheur, un conte scientifique de l'Union rationaliste Métropole Nord. Il était une fois un petit pêcheur qui vivait dans la forêt au bord de la rivière avec sa femme. Le petit pêcheur aimait les animaux, surtout les poissons. Poissons de toutes les couleurs, changeants, argentés, des gros, des petits. Tous les matins, petit pêcheur doit aller chercher la nourriture. Il doit nourrir sa famille, mais il doit aussi porter au seigneur du lieu la plus grande partie de sa récolte, s'il veut rester dans la toute petite cabane en bois qu'il abrite avec sa femme et ses enfants sur les propriétés du seigneur. Dès l'aube, il part, le filet sur l'épaule. Le temps est beau, le ciel est clair, un chaud soleil se lève. Tous les jours, à peine a-t-il jeté le filet à l'eau qu'une multitude de poissons s'y précipite. Comme des arcs-en-ciel, ils éclairent le matin de leurs couleurs chatoyantes. Émerveillé par tant de beauté, cette fois encore, il relâche ses poissons. Il essaie bien d'en conserver quelques-uns, il doit à la fois nourrir sa famille et la maintenir dans la petite cabane de bois. Mais non, chaque fois il est troublé. Un certain poisson semble lui sourire chaque fois qu'il le remet à l'eau. Bizarre, un poisson qui sourit. Mais qu'importe, il redonne la gaieté au petit pêcheur, ce poisson qui semble lui sourire. Alors, il porte tristement sa maigre récolte au gros seigneur. Mais celui-ci, rouge, furieux, les cheveux dressés, lui dit « Comment ? C'est tout ce que tu as récolté ? Incapable ! Retourne et apporte-moi dès le soir une pleine cargaison de poissons. » Petit pêcheur repart, la tête basse. Il ne pourra pas relever le défi. Il ne veut pas tuer ces si beaux poissons pour un seigneur dur et cruel. Il rencontre sur son chemin un homme enchaîné, tiré par les gardes du seigneur. Son seul crime, à lui aussi, est de ne pas avoir porté la quantité de poissons exigée par le maître. Il doit mourir, le seigneur est intraitable. Malgré même les protestations du jeune prince, celui-ci refuse que cet homme soit tué alors qu'ils ont au château tant de nourriture qu'ils ne peuvent tout manger. Alors, petit pêcheur tente. « Seigneur, ces poissons ne peuvent pas être pêchés, foi de pêcheur. Ils sont passés sous l'arc-en-ciel. Il faut donc les relâcher, sinon le malheur tombera sur vous. » De son côté, le jeune et bon prince insiste et insiste. Son père finit par céder, mais avec un rire méchant lui dit « Bon, je lui laisse une chance. Le pêcheur devra passer lui aussi sous l'arc-en-ciel, comme ses poissons. » Car il savait qu'on ne pouvait pas passer sous un arc-en-ciel. « Passer sous un arc-en-ciel ? Comment faire ? Il n'y a pas d'arc-en-ciel. » Mais pour sauver son ami, petit pêcheur est sûr de trouver une idée. La journée est belle, le soleil brille. Justement, une averse légère. Ce petit nuage semble vouloir lui apporter sa chance. Soleil dans le dos, petit pêcheur voit apparaître ce superbe arc-en-ciel qu'il attendait. Il en a déjà vu des arc-en-ciel, mais celui-ci doit sauver la vie de son ami, et peut-être d'ailleurs la sienne aussi. Il n'en a jamais vu d'aussi beau. Alors gaiement il marche, mais l'arc-en-ciel s'éloigne, s'éloigne. Perplexe, le petit pêcheur réfléchit. Non, il ne se découragera pas. Il passera sous l'arc-en-ciel. Mais passant près de la rivière, petit pêcheur aperçoit le beau poisson chamarré qui semble toujours lui sourire. Il est avec deux autres poissons aussi beaux, même si leurs couleurs sont différentes. Le poisson l'interpelle et lui dit « Ne va pas plus loin, petit pêcheur. C'est inutile. On ne peut pas passer sous un arc-en-ciel. Il n'est posé nulle part. » Alors, je vais chercher mes frères. Chez nous, les poissons chamarrés, nous nous entraidons tous, et chacun a des connaissances différentes. C'est le secret de notre entraide.
Je vais chercher mon frère savant. Il t'expliquera pourquoi ce n'est pas possible. » Et le frère expliqua. « La lumière du soleil qui est derrière toi est déviée et dispersée par les petites gouttes de pluie, et cette lumière colorée arrive dans ton œil. Tu le vois, cet arc-en-ciel, mais jamais personne ne pourra le toucher, ni même l'atteindre. Le Seigneur s'est moqué de toi, ainsi que du prince. Il sait que ce n'est pas possible. « Alors ?» dit-il la voix étranglée. « Attends-moi, je vais chercher mon frère, celui qui a de l'imagination. Tu vois, la connaissance et l'imagination, nous les partageons comme les scientifiques. Il faut réfléchir, analyser, savoir, et aussi imaginer pour inventer. Personne ne trouve seul, mais tous ensemble, et tous différents, on y arrivera. Voilà donc, on ne peut pas passer sous l'arc-en-ciel, mais le Seigneur veut t'y voir passer. T'y voir passer. T'y voir passer. Conciliabule entre les poissons. Le poisson savant. Mais si la lumière vient du soleil, traverse les gouttes de pluie et retourne en de si belles lumières colorées vers ton œil, peut-être pouvons-nous fabriquer un arc-en-ciel avec d'autres gouttes? Le poisson inventif. Peut-être pouvons-nous faire un arc-en-ciel que le Seigneur verra au-dessus de toi, même si toi tu le vois plus loin. Le poisson ingénieur. Essayons. Si tu tiens le jet d'eau vers le ciel, et si te vient en aide le soleil illuminant les gouttes d'eau du jet, alors tu demandes au Seigneur de se placer à 1000 nageoires de là, entre le soleil et toi. Il te verra sous le jet. Il pensera alors que l'arc-en-ciel est au-dessus de toi. Merci, mes gentils amis poissons. Jamais plus je ne pêcherai. Jamais plus je ne donnerai de poisson à ce fou méchant. Vous avez sauvé mon ami, et vous m'avez sauvé. Le roi mourut de méchanceté et laissa la place au jeune prince. Et les arcs-en-ciel couvrirent la terre de leur lumière, et les poissons apportèrent à la nature leurs couleurs soyeuses, glissant sur l'eau des rivières.
Oh marongue, oh marongue, marom marongue, azwa fang yore.
Une autre fois, Aurélie, le grand roi, convoqua une grande réunion pour parler de la paix. Il y avait là pêle-mêle des empereurs comme le lion, des ministres comme la gazelle, des chefs d'État comme le renard et des mères de famille comme la poule, des secrétaires comme le loup et des roitelets comme l'agneau, des poètes, des poètes, des poètes. Le chat, la souris, le chien et son maître. Des philosophes comme l'hyène, des avocats comme le corbeau et des hommes d'armée comme le chacal. Et serpent le curé et grenouille le maître chanteur. Des bus, des buffles, des mufles et j'en passe. Il y avait là aussi des patrons comme le pangolin et des ouvriers comme la fourmi. Oui, les ouvriers n'ont pas le temps pour ce genre de manifestation, mais là ils y étaient obligés. Il n'y a pas de bon pays pour les pauvres. Il n'y a pas de bon pays pour les pauvres. Et Aurélie, me direz-vous, Aurélie, Aurélie, il ne fit rien. Ou plutôt si, il se fit attendre. 1 heure, 2 heures, 3 jours. Et au bout du 5e jour, le lion bouffa la gazelle, le renard bouffa la poule. Le loup bouffa l'agneau, le chat bouffa la souris, et le chien reçut son coup de pied, enfin bref. Hyène, chacal, corbeau étaient servis, et ce sont eux qui d'ailleurs les premiers ont alerté le conseil de sécurité. Une grande catastrophe qui menace la paix du monde vient de se produire. Et ils réclamèrent un vote. Pour la petite histoire, le patron ne bouffa pas l'ouvrier. Non, le patron ne bouffa pas l'ouvrier. Quant à Aurélie, le grand roi, interrogé sur les graves événements qui venaient de se produire sur son territoire et sous son patronage, il déclara « Reportez-vous à votre quotidien habituel. » Et en première page de celui-ci, on pouvait lire « Une grande catastrophe qui menace la paix du monde. »